Zombie, présenté par Eve Martin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on va parler de cinéma, ensuite de musique, et puis j'avais envie de parler de La Haine et puis aussi de Hall, un groupe un peu au cœur de polémique quand même. Je vous propose de démarrer cette émission en douceur en écoutant Le Bassin de Opaque, un artiste d'origine mancelle.
Jolie.
c'était Peppers de Lana Del Rey en featuring avec Tommy Genesis. Comme j'ai dit dans l'intro, j'avais envie de parler du groupe de musique des années 90, même s'ils ont été un peu actifs après, mais on va dire qu'ils sont marqués dans les années 90, de Hall. Comme je disais, Hall, c'est un groupe qui a marqué les années 90, autant par sa musique que par les débats qu'il a provoqués. Quand on parle de ce groupe, alors on pense immédiatement à Courtney Love, la chanteuse, figure centrale, provocatrice et profondément clivante. Pourtant, réduire Hall à un simple scandale médiatique, ce serait passer à côté de son importance dans l'histoire du rock alternatif. Hall, c'est avant tout un groupe qui a donné sa voix, qui a donné une voix brute et violente à une génération, en particulier aux femmes, dans un univers musical largement dominé par les hommes. Le groupe se forme à la fin des années 80 à Los Angeles, dans un contexte où le rock alternatif et le grunge commencent à émerger. Musicalement, Hall s'inscrit dans cette scène grunge aux côtés de groupes comme Nirvana ou Sonic Youth, mais avec une approche beaucoup plus frontale, là où certains groupes expriment le mal-être de façon introspective. Hall choisit la confrontation. Le son est volontairement sale, saturé, presque agressif, ce qui est un marqueur de la musique de cette époque, enfin de ce mouvement. La voix de Courtney Love passe du chuchotement fragile au cri déchirant, créant une tension permanente entre vulnérabilité et colère. Les thèmes abordés par Hall sont particulièrement crus, la violence sexuelle, le sexisme, la maternité, la souffrance psychologique, la pression exercée sur le corps féminin, mais aussi la célébrité et ce qu'elle détruit. En 1994, l'album Life Through This devient un tournant majeur. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des albums les plus importants des années 90. Paradoxalement, malgré son intensité émotionnelle, c'est un album très mélodique, presque accessible, mais dont les paroles sont d'une brutalité rare. Hall y défend l'idée que l'on peut être brisé et en colère à la fois, et que cette colère mérite d'être entendue. Il est évidemment impossible de parler de Hall sans évoquer le mouvement des Riot Girls. Alors, même si la relation entre les deux, elle a toujours été complexe, le Riot Girls, c'est un mouvement punk féministe né au début des années 90 qui encourage toujours les femmes à prendre la parole, à créer leur propre scène musicale et à parler sans filtre de sujets longtemps considérés comme tabous, le viol, la domination masculine, la rage féminine, la sexualité, la honte. On peut citer des groupes comme Bikini Kill ou Bratmobile, qui sont des figures emblématiques. Courtney Love n'a pourtant jamais revendiqué cette étiquette, ce qui a créé des tensions avec certaines militantes du mouvement qui lui reprochaient son rapport à la célébrité et aux médias. Pourtant, dans les faits, le groupe incarnait une grande partie des idées Riot Girl, refusait d'être docile, refusait d'être silencieuse et utilisait la musique comme un espace de libération. Les polémiques autour de Hall sont indissociables de son histoire. Courtney Love, elle a été longtemps considérée comme l'une des femmes les plus détestées du rock. Les médias la décrivaient comme instable, excessive, trop bruyante, trop sexuelle, trop agressive. Des qualificatifs que l'on pardonne souvent aux rockstars masculines, mais qui deviennent des fautes lorsqu'ils s'appliquent à une femme, d'autant plus que c'était très rare. Sa relation avec Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, a amplifié cette hostilité médiatique. Après le suicide de ce dernier en 1994, Courtney Love devient la cible de théories complotistes, l'accusant d'être responsable de sa mort malgré l'absence totale de preuves. Cette diabolisation a contribué à effacer son travail artistique et à la réduire et réduire son groupe à un simple scandale. Une autre polémique récurrente concerne l'album Life Through This, le TH, c'est tellement compliqué. Certains ont affirmé que Kurt Cobain, en fait, serait le véritable auteur, refusant d'admettre qu'une femme puisse écrire un album aussi puissant. Cette remise en question constante de la légitimité artistique de Courtney Love révèle surtout le sexisme profondément ancré dans l'industrie musicale. Hall n'a pas seulement dérangé par son son, mais par ce qu'il représentait, une femme qui ne cherchait ni à plaire ni à s'excuser. Aujourd'hui encore, Hall reste un groupe essentiel pour comprendre l'évolution du rock et de la place des femmes dans la musique. De nombreuses artistes contemporaines comme Lana Del Rey, Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, qui a d'ailleurs été un peu accusée d'avoir recréé la pochette de l'album Life Through This, ou encore Billie Eilish, elle revendique une forme d'héritage de cette liberté émotionnelle totale. Hall a montré qu'on pouvait être imparfaite, contradictoire, fragile et violente à la fois, et transformer tout cela en art. En définitive, Hall, c'est pas seulement et simplement un groupe de grunge des années 90, c'est un groupe qui a mis des mots, et surtout du bruit, sur des réalités longtemps ignorées. Courtney Love est une figure controversée, mais c'est précisément cette controverse qui rend Hall important. Le groupe nous rappelle que le rock n'est pas là pour rassurer, mais pour déranger, questionner et parfois mettre mal à l'aise. Et c'est sans doute pour cela que Hall continue de résonner auprès des jeunes générations aujourd'hui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Courtney Love, je pense que ce n'est pas elle seule le groupe et que donc on peut lui donner une chance. Et donc je vous propose d'écouter Petals, extrait de Celebrity Skin, sorti en 1998.
Thank you. surprise partie, tu m'as surpris. T'es parti. Seul je suffoque dans cette jungle, ça me rend dingue. T'es parti. Je fais un vœu, le feu d'un duel. Où tu te rendras, provoquer du duel avec toi. L'horizon s'éclaircit, sublime le soleil s'est levé. Dans le rôle du rebelle des sables, enfin tu apparais, défiant toute exactitude dans les dunes cachées.
Dans l'amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Nous venons d'écouter Duel au soleil d'Étienne Dao et je vous propose de marquer une nouvelle pause musicale après laquelle on parlera du film La Haine de Mathieu Kassovitz. Je vous propose d'écouter On the Verge de Le Tigre sur l'album This Island sorti en 2004.
can't stop myself from wanting you. And oh, I don't believe I want to even try. Oh no, I can't stop my hands from touching you. No, I want to see that loving feeling in your eye. The nearness of you surrounding me, it seems that I can almost touch your soul. I feel my heart a pounding inside me. Hold me, baby, hold me, don't let me go. This is such an unusual reaction. Yeah, I never, never. Sexual attraction, yeah. I find myself loving you more and more. Stop myself from wanting you. And oh, I don't believe I want to even try. Oh no. And I can't stop my hand from touching you. So I wanna see that loving feeling in your eye. Good morning, mama. You look so lovely. With your soft hand spread against the pillowcase, soft eyes avoiding me, with the look of uncertainty all over your face. But baby, I meant every word I told you. Yes, I did. 'Cause now
Nous venons d'écouter That Loving Feeling d'Isaac Hayes, qui est d'ailleurs présent dans le film La Haine. Transition parfaite pour en parler, je vous me l'accorderai. La Haine, c'est réalisé par Mathieu Kassovitz et c'est sorti en France en 1995. Et c'est un film qui a marqué assez profondément le cinéma français. Près de 30 ans après sa sortie, il continue de résonner avec une force troublante, comme si le temps n'avait rien changé, puisque c'est un film qui s'inscrit dans un contexte très précis, mais on a pu voir, disons, des sortes de suites, en tout cas d'épisodes similaires après, en 2005 et puis en 2023, je crois. C'est pas seulement un film sur la banlieue, c'est un film sur la colère, l'injustice, la violence sociale et l'échec du dialogue entre l'État et une partie de sa jeunesse. Dès sa sortie, La Haine provoque des débats passionnés, des polémiques et devient un symbole culturel, parfois même politique. Le film s'inscrit dans un contexte très précis, celui des années 90, marqué par les violences policières, les émeutes urbaines et une fracture sociale de plus en plus visible en France. Kassovitz, s'inspire directement de faits réels, notamment la mort de Makome Mbowele en 1993, tué par un policier lors d'un interrogatoire. Cette proximité avec l'actualité rend le film immédiatement explosif. Certains responsables politiques accusent alors La Haine de faire l'apologie de la violence et de donner une mauvaise image de la banlieue et de la police. Le film est même projeté à l'Assemblée nationale, preuve qu'il dépasse largement le cadre du cinéma pour devenir un véritable objet de débat national. L'une des grandes forces de La Haine réside dans ses choix artistiques radicaux. Kassovitz fait le choix du noir et blanc à une époque où la couleur domine largement le cinéma. Ce parti pris n'est pas seulement esthétique, il donne au film une dimension presque documentaire, froide et intemporelle. Le noir et blanc efface les repères classiques, durcit les contrastes et accentue la violence des situations. Il permet aussi de sortir le film d'un simple réalisme social pour en faire une œuvre universelle qui pourrait se dérouler à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle banlieue. La mise en scène est elle aussi travaillée. Kassovitz multiplie les plans séquences, les mouvements de caméra fluides et les cadrages serrés qui donnent l'impression d'être constamment collés aux personnages. Le spectateur ne les observe pas de loin, il les suit presque malgré lui pendant 24 heures. Finalement, le personnage, c'est un peu le quatrième copain, quoi. On est vraiment dans le film. Ce choix renforce le sentiment d'enfermement et d'urgence, comme si la violence était inévitable, tapis à chaque point de rue. Le fameux compte à rebours, ponctué par la phrase « Jusqu'ici, tout va bien », agit comme une métaphore glaçante de la société française. La chute est inévitable et le problème n'est pas la chute elle-même, mais l'impact. La musique occupe également une place centrale dans La Haine. Kassovitz fait le choix de mélanger des genres qui représentent la diversité culturelle de la banlieue, le rap, le reggae, le funk, mais aussi des références au cinéma et à la musique classique. On pense à Carmen. Le morceau le plus emblématique reste évidemment Sound of the Police de KRS-One, qui résonne comme un slogan politique. Cette musique n'est pas un simple fond sonore, elle est un langage, une identité, un moyen d'expression pour des jeunes qui n'ont pas accès à la parole institutionnelle. On voit la célèbre scène où un DJ qui est en fait Cut Killer, qui mixe Edith Piaf et ce son Sound of the Police depuis sa fenêtre. Et ça symbolise parfaitement ce choc des cultures et cette France divisée, incapable de vraiment s'écouter. Les personnages de Vince, Saïd et Hubert incarnent trois façons différentes de réagir à la violence et à l'injustice. Vince représente la colère brute, la fascination pour la violence comme moyen de reconnaissance. Saïd oscille entre provocation et légèreté apparente, utilisant l'humour comme protection. Et Hubert, lui, incarne une forme de lucidité désabusée, conscient que la haine ne mène qu'à la destruction. Kassovitz ne les juge jamais réellement, il ne propose pas de solution miracle, ce qui a d'ailleurs alimenté les critiques. Certains ont reproché au film son pessimisme et son absence d'espoir, mais c'est justement ce refus de la morale facile qui fait la puissance de la haine. Les polémiques autour du film tiennent aussi à son réalisme brutal. Certains policiers et responsables politiques ont estimé que le film caricaturait les forces de l'ordre. D'autres, au contraire, ont vu dans la haine un miroir nécessaire montrant que la société refuse de regarder. Kassovitz lui-même a toujours affirmé que son film n'était pas anti-police, mais anti-système, dénonçant un engrenage où la violence appelle la violence. Aujourd'hui, la haine est étudiée à l'école, analysée à l'université et citée comme une référence majeure du cinéma français. Pourtant, ce qui frappe le plus, c'est son actualité, les thèmes qu'il aborde, les contrôles policiers, le sentiment d'abandon, la rage sociale reste tristement présent. La force du film réside dans sa capacité à traverser des générations, à parler autant aux jeunes d'hier qu'à ceux d'aujourd'hui. En conclusion, La haine n'est pas seulement un film culte, c'est une œuvre radicale, engagée, qui utilise la musique, l'esthétique et la mise en scène comme des armes politiques. Kassovitz a fait le choix de déranger plutôt que de rassurer, de montrer plutôt que d'expliquer. Et c'est précisément pour cela que la haine continue de marquer, de choquer et de faire réfléchir. Près de 30 ans après sa sortie.
Cette chita shining like diamonds in a rocky world. Rocky world. Our skin like bronze and our hair like cashmere. As we march to the rhythm on the palace floor. To the tomb. Oh, oh, oh.
C'est déjà la fin de cette émission. On vient d'écouter Pyramids de Frank Ocean. Vous pouvez réécouter cette émission en rediffusion de 9h à 10h demain sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.
Présenté par Elbartan.